les échos du Grand Saint-Barthélemy réalisé et produit par le Comité Maméga, ici en direct au sein du Comité Maméga. Je vous invite à aller sur le site du vivensemble.org. Je reformule le vivensemble.org. Aujourd'hui, ça va être Lily, ma collègue, qui va animer avec Saïd Boukenouche et Karima Berich l'émission de radio. Je te passe la parole, Lily.
Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Alors, comme vous l'a dit Farid, nous sommes aujourd'hui en direct du Comité Maméga pour notre émission mensuelle, Les Échos du Grand Saint-Barthélemy. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est la culture dans tous ses états, le ZEF, scène nationale au sein du Grand Saint-Barthélemy, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors, vous pouvez nous contacter au 07 49 53 26 38 et nous recevons aujourd'hui Francesca Pollunato, directrice du ZEF, Karima Berich-Conan, excuse-moi, on ne te reçoit pas, tu es toujours avec nous, Hassan Ben Mohamed et Fatima Moustefaoui. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir au sujet du ZEF. Bizarre, le ZEF, vous avez dit bizarre, Kézako. Restez alors à notre écoute pour en savoir un petit peu plus. On va déjà faire une première respiration musicale dédiée à la famille de Monsieur Maboubitir, dont l'épouse est décédée cette nuit. Et le Comité Maméga adresse toute sa sympathie et ses amitiés sincères à toute la famille, ainsi que ses sincères condoléances. Je cède la parole à Karima Berich, qui va nous présenter Madame Thier.
Présenter parce qu'effectivement on a mis en lumière l'histoire et le combat de Monsieur Thier, donc son époux, et peu Madame Thier, qui pendant, en tout cas quand elle était jeune et en bonne santé, était très connue dans le quartier, notamment auprès de la communauté féminine, et elle a aussi joué un peu ce rôle-là de médiatrice, de conseil auprès de la population, notamment originaire des Aurès, ce qu'on appelle ici communément la communauté Chaouia. Et pour nous, Chaouia, mais pas que, mais les habitants de la Busserine, le départ de Madame Thier, est une grande tristesse. Moi, je la salue au nom de ma mère qui n'est plus de ce monde, elle aussi, malheureusement, et au nom de la communauté Chaouia à laquelle j'appartiens.
Donc, le titre que nous allons passer est un morceau de Joubi Bernabé intitulé « Océane, quand je chante à ma mère ».
Quand je chante ma mère, je ne chante pas seulement une femme parmi tant d'autres appelées mères. Je raconte avant tout des yeux qui m'ont appris à voir, des mains qui ont chéri les mains qui maintenant sont miennes, un cœur, un sein, une voix et une originelle permanence marine en tout ce que la mer a de plus maternel. D'abord, l'eau simplement, l'abondance de sel qu'elle ne vante jamais, la noblesse de la vague, la complainte de l'écume et le bleu, l'intensité du bleu de l'âme dans le reflet du ciel, les galions de tendresse, les voiles d'allégresse que récite à voix basse la mémoire du large, miroir des souvenirs, traverser certains jours de détresse extrême, de marée sans pitié, quand se dresse dans la nuit, au-devant d'un naufrage, la foi du sacrifice, dans l'amour d'une mère, jusqu'au don de sa vie, pour la chair de sa chair. Quand je chante ma mère, je célèbre la force d'une femme océane, dont le cœur est une source d'espérance et de joie, malgré tous les sanglots qui ont secoué son sein. Esprit des eaux tranquilles, esprit des ondes vives, esprit des eaux pures suspendues, esprit des puits inépuisables, esprit des océans sans âge, peuplés de coraux inconnus, esprit des terres d'abondance, esprit des feuilles et des graines, esprit des plantes bénéfiques, esprit de toutes les racines, esprit des glaises bien pétries, esprit des pierres essentielles, au cœur des braises solidaires, esprit des promenades, à bord des plus beaux clairs de lune, esprit des vieilles mélopées perlées de poses nostalgiques, esprit des fontaines anciennes, esprit des rires sans saison, esprit de l'étoile du matin, esprit de toutes les rosées et du pain béni de la joie. Répandez vos louanges immenses sur les ailes de ma mère et sur celles de toutes les mères du monde.
Donc nous sommes en direct des Échos avec la participation de nos invités que je vous présentais précédemment, Madame Francesca Polignato, directrice du ZEF, Madame Fatima Mostefaoui, responsable de l'association Avec Nous, Monsieur Hassan Ben Mohamed, qui est le frère de Laouri Ben Mohamed, mais pas seulement. Et nous allons ouvrir ensemble une fenêtre sur la culture, culture essentielle ou non, on en discutera un petit peu plus tard, avec Madame Francesca Polignato, directrice du ZEF. Le ZEF, parce qu'on dit ZEF, mais pour nous, c'est un petit peu, même si ça fait un moment que ça a fusionné avec la gare France, ça s'appelle ZEF, mais pour nous, dans notre mémoire, ça reste quand même le Théâtre du Merlan, scène nationale, donc un lieu d'expression artistique. Bon, bonjour Francesca.
Bonjour.
Peux-tu te présenter et nous expliquer un petit peu depuis combien de temps tu es sur la direction du ZEF, d'une part, et d'autre part, en quoi consiste une scène nationale ?
Vaste question. Bah, j'ai été nommée en janvier 2015. J'ai pris mes fonctions au Théâtre du Merlan en février 2015. Et depuis 2 ans, une fusion s'est opérée entre la Fabrique artistique La Gare Franche et le Théâtre du Merlan, d'où le changement de nom de la scène nationale. Mais les lieux restent quand même toujours Théâtre du Merlan et Gare Franche. Mais l'entité nationale s'appelle le ZEF. Voilà. C'est une scène nationale qui est... Il y en a 76 en France. Elle est implantée dans les quartiers nord de Marseille. C'est la seule scène nationale qui est implantée dans une très grande ville. Au moment de la décentralisation, quand les scènes nationales ont été créées, c'était surtout pour une décentralisation de la culture. Et donc, c'était surtout dans des plus petites villes. Marseille a été différente, comme toujours. Marseille est toujours une ville différente de tout. Et même pour une scène nationale, c'est quand même une très grande ville, mais avec vraiment énormément de quartiers. Et puis, ça a été, je crois, un deal entre Gaston Defer et puis... la personne qui a voulu créer Carrefour ici, et ça a donné un théâtre, une bibliothèque, un commissariat, à côté d'une autoroute. Je plante le décor, c'est la scène nationale, le ZEF, à Marseille.
Et qu'est-ce qui différencie une scène nationale justement d'un théâtre classique, un théâtre lambda ?
Une scène nationale, il y a un label État. Ça veut dire que l'État est quand même garant de ce qui peut s'y dérouler, ce qui s'y passait. C'est aussi des missions très précises. La première mission d'une scène nationale, c'est la création contemporaine, la production et la sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont énormément évolué, hein, parce que beaucoup de directrices et directeurs sont partis, qui avaient une certaine façon de travailler. D'autres arrivent avec une conscience un peu plus grande sur le fait que c'est important que ça ne soit pas que la culture soit quand même pour tous. Personnellement, je pense que la décentralisation qui a été créée depuis 70 ans est un échec. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que j'essaye de défendre ici pour qu'on soit autrement et différent, en tous les cas, que ce que on a pu vivre jusqu'à présent au niveau d'un établissement culturel.
D'accord. Et quelle est la nature juridique du théâtre et qui en assure la présidence et le fonctionnement ?
Alors, la nature juridique, c'est une association, loi 1901. Voilà. Par contre, la directrice est nommée par la ministre de la Culture après validation d'un conseil d'administration. Conseil d'administration, il y a des collectivités qui sont présentes et des membres. Le président a été pendant 30 ans Alain Vidal-Naquet. À mon arrivée, c'était toujours Alain Vidal-Naquet qui, voilà, et je pense qu'il était mon projet. Et puis 30 ans, c'est beaucoup. J'ai fait en sorte qu'on change les statuts aussi de l'association. Et un nouveau président est arrivé qui s'appelle Robert Maury. Voilà, qui est une personne qui est un ancien chef d'entreprise. Il est à la retraite. C'est quelqu'un qui est extrêmement stratège et j'avais plutôt besoin d'être entourée par quelqu'un de plus stratégique au niveau politique que quelqu'un qui s'occupe de l'artistique ou du personnel, parce que ça, je pense que je suis assez grande pour le faire. Voilà, et le bureau, il y a aussi un vice-président, et là, il a tout changé, hein, donc Robert Mauré est arrivé, Danielle Gallus, directrice, ancienne directrice de Saint-Gabriel, est arrivée aussi, Loïc Magnan, bureau des guides, voilà, j'ai un peu changé le bureau, parce que c'est une autre dynamique aussi, voilà.
Francesca, je te remercie pour toutes ces précisions.
Ça, et voulait... les financements, quand même, oui. Voilà. C'est une association, mais c'est financé par la ville, et je fais par ordre hiérarchique de celui qui donne le plus d'argent, par la ville, par l'État, par le conseil régional et le conseil départemental.
Je te remercie. Saïd voulait intervenir.
Alors, une double question. C'est une association, donc vous avez des adhérents. Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents du quartier? Et la deuxième question, sur la question de la programmation, dans quelle mesure les gens du quartier peuvent participer à la réflexion sur la programmation?
Alors, c'est une association, c'est pas pour ça qu'il y a des adhérents, beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a un bureau, voilà, il y a une assemblée générale avec des personnes qui sont là. Il n'y a pas forcément des adhérents, comme dans toute autre scène nationale. Après, la programmation, c'est une programmation que je fais en collaboration avec une collègue, Caroline Guichard. Où on essaye, en tous les cas, moi je souhaite que cette programmation soit accessible à plein de monde, donc c'est une programmation très diversifiée, hein, ça peut être sur des choses qui sont parfois dans des petites, entre guillemets, pointues, comme on dit, mais ou des programmations beaucoup plus simples, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est vraiment adressé à la jeunesse, principalement, et la programmation, je ne la partage pas avec les gens du quartier. Ni avec les gens du centre-ville, ni avec les gens de l'État, ni avec les gens de la France.
Merci Francesca. Je vais à présent passer la parole à notre passeuse de mémoire, Karima, qui va réinscrire le théâtre dans l'historicité du Grand Saint-Barthélemy.
Alors mon propos, c'est plutôt le Grand Saint-Barthélemy et la culture. Évidemment, on ne peut pas parler du Grand Saint-Barthélemy et de la culture sans parler du théâtre du Merlan. Alors je vais essayer de revenir à la fois, faire des allers-retours, parce que c'est important. Et pour cela, mettre mes lunettes d'abord. Alors, dès la fin de la construction du centre de la ZUP numéro 1 de Marseille, ce qu'on nomme aujourd'hui le Grand Saint-Barthélemy, qui a été construit entre les années 60 jusqu'au milieu des années 70, un centre urbain du Merlan était inauguré en 1976. Et ce centre urbain que nous connaissons tous ici accueille à son sein, dès les années 70, un vaste espace appelé à l'époque salle polyvalente. S'y produit divers spectacles, tant bien que mal. Il y a un personnage c'est important de parler des personnes, parce que je crois que c'est les personnes qui font l'histoire de ce territoire, c'est Renaud Mouillac, qui, par sa pugnacité et sa détermination, va transformer cette salle polyvalente en théâtre du Merlan au début des années 80. Donc il faut chapeau à Renaud Mouillac. Et comme l'a fort bien dit la directrice actuelle, cet équipement culturel sera labellisé quelques années plus tard, scène nationale, ce qui donne quand même un aura à cet équipement, non seulement au niveau de Marseille, mais bien au-delà de la frontière marseillaise. Et de grands artistes de renommée nationale et internationale s'y produisent depuis chaque année. Donc on a effectivement une programmation de qualité à deux pas du territoire du Grand Saint-Barthélemy. Donc nous avons un voisin que nous devons à la fois solliciter et chouchouter. Mais il faut revenir un peu en arrière. Alors revenons un peu en arrière, il faut pour s'attarder malheureusement sur un événement dramatique qui a marqué l'histoire à jamais du Grand Saint-Barthélemy, c'est l'assassinat du jeune Lawari Ben Mohamed par un policier. Le meurtre de ce jeune garçon de 17 ans va provoquer un véritable séisme, notamment par la mobilisation des habitants, notamment les jeunes et les femmes, qui interpellent les politiques et les institutions publiques pour garantir leur sécurité et un avenir surtout pour les jeunes garçons et filles, parce que le chômage touche déjà durement ce territoire. Le mal-être qui habite une partie de cette jeunesse, souvent issue de l'autre côté de la Méditerranée, va trouver son expression à travers la culture, soit par le chant, soit par le théâtre. L'expression artistique est alors privilégiée à d'autres expressions possible. Le théâtre du Merlan sera un des lieux d'accueil de cette expression. Il faut interroger la génération, notamment nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Hassan Ben Mohamed, et cette génération a bien connu le théâtre du Merlan à cette époque et qui a accueilli des formes d'expression artistique portée par ces jeunes garçons et jeunes filles du quartier, mais bien au-delà, bien évidemment. Mais le théâtre du Merlan, évidemment, il faut le rappeler, est un lieu artistique et culturel d'importance, mais nous devons aussi citer le théâtre des Flamands, qui est né après l'assassinat de l'Aouari Ben Mohamed, notamment avec Moussa Maskri, ami de l'Aouari et habitant des Flamands, et d'autres jeunes, créé au lendemain donc de l'assassinat d'un de leurs potes. D'autres compagnies s'installent dans le Grand Saint-Barthélemy. Alors là aussi, nous avons une pensée toute particulière pour Akel Akian et le théâtre de la Criée, de la mère qu'elle a psus, excuse-moi, Akel Akian, là où tu es. Mais Akel Akian qui a aussi amené la culture dans nos quartiers. Ils ont été en résidence pendant très très longtemps, l'espace culturel de Busserine, et puis après, petit à petit, on les a fait partir. Ils sont allés à Aubagne, et puis ils sont revenus s'installer maintenant du côté de la rue de la République. Voilà, mais ils ont fait un travail extraordinaire, notamment en intégrant dans leur programmation à la fois des textes de grands auteurs et à la fois des récits de vie des habitants. C'était ça qui était intéressant dans la démarche d'Akel Akian. C'était un parti pris de Akel Akian, du directeur, de travailler sur des textes d'importance comme celui de Kateb Yassine Nejma et de croiser ce texte hautement magnifique avec des récits d'habitants. Mais aussi, nous devons aussi parler de quelqu'un d'autre, peut-être qui n'a pas la renommée d'Akel Akian, mais qui pour nous aussi a été important, c'est Mohamed Hadi, du Théâtre du Pied Nu. Lui aussi, dès les années 80, très présent au Théâtre du Merlan, le Théâtre du Merlan, à l'espace culturel Busserine, et qui a ouvert des ateliers en direction d'enfants, d'adolescents, etc., pour les initier à l'expression culturelle. Alors, Mohamed Hadi a une particularité, c'est que c'est un enfant de fond vert, donc du Grand Saint-Barthélemy. Des artistes du CRU vont émerger grâce à ces différentes scènes culturelles qui sont alors présentes dans ce territoire. Nous avons parlé de Madame Tyr qui nous a quittés cette nuit, son fils Kadi Tyr, qui est comédien et danseur, Louisa Amouche, qui est une grande danseuse, Moussa Maskri, je l'ai nommé, mais qui est un comédien de renommée nationale, Jean-Pierre Ega, danseur et chorégraphe, et tant d'autres. Je dirais aussi, pour finir, mais j'aurai d'autres choses à dire par la suite, hors le théâtre du Merlan, qui est une exception du fait que c'est une scène nationale, l'aide financière en direction des structures culturelles du territoire a connu une période faste, de 82 à 2002, et quasi exclusivement des financements de la politique de la ville, et une période en berne depuis 2002 à nos jours, puisque malheureusement, on le sait, la politique de la ville n'a plus fait de la culture une de ses priorités, ce qui est extrêmement dramatique pour les structures culturelles. Et effectivement, nous avions une discussion avant cette émission, le Théâtre du Merlan ne peut pas tout porter, le ZEF ne peut pas tout porter, et en ne permettant pas la viabilité de structures culturelles, évidemment, c'est dommageable pour la culture dans ce territoire. Je voudrais quand même dire deux mots sur ce territoire et à travers, bien sûr, cette entrée qu'on a privilégiée, qui est la culture urbaine, qui est une culture que Jean-Pierre a fait rentrer, Jean-Pierre Ega, dès les années 90, en invitant une compagnie lyonnaise et après en proposant des ateliers de rap, de break et de breakdance et de graph. Et c'est la culture urbaine aujourd'hui a gagné ses galons de noblesse. Et ça reste encore une des expressions favorisées, notamment par la jeunesse du Grand Saint-Barthélemy. Malheureusement, avec peu de moyens, le grand absent de la culture dans ce territoire, toujours hors le Théâtre du Merlan, c'est la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui a du mal à reconnaître que parfois des gens issus de ce territoire ou d'autres territoires des quartiers populaires portant la culture comme étendard puissent bénéficier de leur financement et donc renvoyer chaque fois la politique de la ville. Mais comme je l'ai dit, la politique de la ville a déserté un peu cette thématique pour notre plus grand malheur. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à dire, mais je reviendrai là-dessus. Sur le théâtre du Merlan, je viendrai, je dirais, quelques petites choses intéressantes, à la fois sur l'histoire du théâtre du Merlan et les habitants du Grand Saint-Barthélemy.
Oui, juste pour en revenir à la question, même si ce n'est pas des adhérents, il n'y a pas forcément besoin d'adhérents pour pouvoir être avec les gens. Et je sais que c'est ce que je défends beaucoup depuis mon arrivée, en tous les cas, d'essayer d'être le plus avec. C'est un petit mot que j'emploie beaucoup dans tous mes écrits ou dans mes oraux. Et je vois en tous les cas ici, il y a deux personnes qui sont à cette table-là et je pense que voilà où ça a vraiment été des belles rencontres. Et que ce soit Hassan ou Fatima, voilà, ce sont des rencontres en tous les cas qui ont été avec des super allers-retours. Enfin, je veux dire, même s'ils ne sont pas adhérents au Théâtre du Merlan, ils sont vraiment présents au Théâtre du Merlan, soit par les projets que Hassan m'a proposés et que j'ai répondu tout de suite, évidemment, oui, et en étant avec lui et en faisant avec, soit Fatima, parce qu'elle a envie de proposer, ou parfois moi, j'ai besoin qu'elle soit là pour prendre la parole aussi dans des colloques que j'organise, parce qu'il y a besoin de personnalités comme elle qui puissent prendre la parole autre qu'une directrice d'une scène nationale. Donc je préfère être sur des rencontres. Les rencontres, pour moi, sont essentielles pour pouvoir travailler avec les gens.
Je te remercie, Francesca. Ben justement, nous allons maintenant laisser la parole à Hassan et Fatima pour qu'ils se présentent un petit peu.
Bonjour à toutes, à tous. Pour me présenter, ça va être rapide. Hein. Je suis Hassan Ben Mohamed, petit frère de la Wari Ben Mohamed. C'est comme ça que j'interviens sur les actions que j'essaie de mener parce qu'elles tournent autour de la mémoire de mon frère, principalement et tout le temps. Et puis le théâtre du Merlan, justement, parce que c'est le sujet, d'après ce que je comprends. Effectivement, le théâtre du Merlan, le centre culturel du Merlan, hein, dans les années 80, c'est comme ça qu'il s'appelait, a vu la troupe théâtrale des Flamands se représenter là-bas la toute première fois. C'est là qu'ils ont joué. C'est là que ma mère, même, a ses souvenirs. La première fois qu'elle a vu les jeunes des Flamands jouer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va débuter la soirée de demain soir. Parce qu'on a des photos de cette représentation. Mois de mars, février ou mars 81. Donc tout de suite, quelques mois après le décès de mon frère. Revenir au Merlan, c'est toujours un plaisir. Parce qu'en plus on y est bien accueilli. Francesca, elle sait qu'elle prend un risque à chaque fois, mais un risque maîtrisé, parce qu'il s'y passera toujours quelque chose, et toujours quelque chose de bien, quand nous on intervient. Et puis voilà, donc avec Fatima, cette année, on a cravaché pour travailler autour de la mémoire de mon frère, mais plus élargi sur les Flamands, sur le quartier, les habitants. Et voilà, donc on va intervenir là-dessus.
Oui, je crois que ce serait intéressant de présenter l'initiative de manière globale avant, pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Parce que nous, on sait de quoi on parle. Mais...
Oui, c'est vrai, tu as raison. L'initiative, elle a démarré tout simplement le 18 octobre 2020, c'est-à-dire l'année dernière, en plein période de Covid. On s'est mobilisé rapidement, furtivement, j'allais dire, au Tourski, parce qu'ils nous ont prêté une petite salle rapide. Je voulais marquer absolument les 40 ans de la disparition de mon frère. C'était quelque chose que je ne voulais absolument pas louper. Et on a réussi à se rassembler à une poignée d'habitants. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il s'était passé quelque chose. Il y a un mal-être aux Flamands. Les gens ont envie de se montrer, de sortir, de dire voilà, on existe, on a existé. Et il y a une mémoire qui est là et tout le monde a envie de se l'approprier. Et on s'est lancé le défi, à savoir, on se mobilise tous ensemble. On ne peut pas faire porter ça sur les épaules d'une personne. Et tous ceux qui viennent, on se lance. Donc on a lancé un petit peu le projet, comme ça. Et ça a pris. Et du coup, on est, ça se traduit par deux actions, deux journées actions. Une demain soir au ZEF du Merlin. Je dis bien non, je reste au Théâtre du Merlin pour moi.
Donc, restez au Théâtre du Merlin. C'est pour ça que c'est le ZEF, mais ça se passe au Théâtre du Merlin.
Donc une soirée où on va aborder, c'est une table ronde principalement, où on va aborder deux thématiques. La première, c'est la mémoire, les problèmes liés à la transmission de la mémoire au quartier, parce qu'on s'est rendu compte que ça se faisait pas. Et une deuxième thématique où on va essayer de proposer des choses, ou en tout cas s'interroger sur la manière dont on peut améliorer la vie des habitants et les relations avec la police et les administrations. On a des invités, on a Toumi Djaïdja qui fait le déplacement depuis Lyon, l'initiateur de la marche pour l'égalité contre le racisme de 83. On a Amar Oussekin, le grand frère de Malik Oussekin, père son âme, qui vient de Paris, qui est ravi d'être là, et il va nous apporter aussi son point de vue sur tout ça, sur la mémoire, sur les problèmes de transmission, et ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a divers intervenants, Moussa Maskri sera là, Mognis Abdallah qui vient de Paris aussi, Yamina Bencheni, Fatima, enfin je lis un peu l'affiche, Christian Péchy, Michel Peraldi, Karima Berich, enfin, tout le monde, tous ceux qui sont liés à l'histoire du grand Saint-Barthélemy, forcément, hein, parce que les Flamands s'inscrivent dans le grand Saint-Barthélemy. Seront là, voilà. Donc on a une partie aussi, je voulais faire découvrir les chansons. Il y a quatre chansons principalement, trois, quatre chansons qui ont été écrites autour de la mémoire de mon frère. Une par Hakim Amadouche, une par Momo Bouzidi et une par Pierre Prouvez. Donc je voulais les faire découvrir en live. On n'aura pas Momo Bouzidi, mais je réserve notre surprise. J'ai fait un petit montage d'archives qui peut être marrant. Voilà, des archives des Flamands d'époque. Et on aura un moment théâtral à la fin avec Brahim Maskri et Leïla Abidi qui vont nous proposer quelque chose qu'ils ont dû travailler normalement. Voilà. Donc ça, c'est Osef du Merlin.
Et un chorégraphe aussi, je crois.
Il y aura Liam Warren qui intervient. On l'a greffé à la troupe de théâtre. Donc il fait sa petite intervention. Ça aussi, ça sera une belle surprise à découvrir.
Juste avant de laisser la parole à Fatima, je voulais juste te dire que ça a démarré le 18 octobre 2020, mais ça a aussi démarré le 18 octobre 2016.
Ça a démarré
quand même avec la gâchette facile.
Ça a démarré 2015, ouais, de voilà. Octobre 2015, voilà. 2015 au Merlin, au Théâtre du Merlin, effectivement. C'est pour ça qu'on revient encore la présentation en octobre 2015 qu'on a organisée avec Francesca, avec Fatima, avec tout le monde. Et voilà, ça c'est pour vendredi. Et samedi, par contre, on investit les Flamands. L'idée, c'était de se réapproprier les espaces des Flamands, faire sortir les gens. Donc on a tout un tas d'activités, on propose tout un tas d'activités. Il y aura une expo photo, il y aura un concert. On clôturera la soirée par un concert. Mais il y aura une association de bénévoles de la police qui vient de Paris. Enfin, ils interviennent souvent avec des policiers locaux qui vont animer des ateliers sportifs pour les jeunes. On a des jeux gonflables, on a des interventions de clowns, c'est tellement chargé. Mais là, les Flamands, ils vont demain, vous allez en entendre du centre-ville, on sera entendu, je pense. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir, c'est ouvert à tout le monde peut venir. Le Théâtre du Merlin est affiché complet pour demain soir. On aurait pu aller un peu plus loin, mais les restrictions Covid nous empêchent d'aller au maximum.
Ouais, on est à 65% de la jauge, oui.
Donc voilà. Et par contre, pour les Flamands, j'invite tout le monde à venir. Ça va être sympa.
Il n'y a pas de jauge aux Flamands.
Non, ça peut déborder.
Ah, c'est du plein air. Je te remercie, Hassan. Peut-être maintenant laisser Fatima se présenter. Fatima, une grande figure quand même marquante du territoire, reconnue par tout le monde.
Je ne sais pas si je suis une figure marquante, mais je vais présenter Fatima Mostefaoui. Je suis la fondatrice de l'association Avec nous. J'ai grandi au Flamand, en fait, comme tout le monde. Et ensuite, tu as envie de partir parce que tu te dis, je ne peux pas rester dans un quartier où on m'enferme. C'est surtout essayer de s'échapper. Mais la vie, elle te rattrape et elle te dit de revenir à tes racines. Et moi, je suis contente d'être revenue à mes racines parce que c'est là où je me sens vivre et c'est là où j'ai l'impression de porter quelque chose. Parce que travailler en entreprise ou un truc comme ça, tu n'as pas l'impression de porter. Pour moi, hein, mais j'ai porté. Et moi, je suis contente aussi aujourd'hui d'être avec vous, à côté de Karima, de Hassan, de Saïd, que je ne vois pas souvent, mais que je connais, et de Francesca, parce que moi, le théâtre du Berlin a fait partie de mon enfance. On a joué des pièces à l'école et on les a jouées devant nos parents. Et moi, quand je voyais le théâtre du Merlin en grandissant, où je n'avais pas le droit d'y aller, pour moi, c'était quelque chose qui ne m'appartenait plus. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Karima, c'est les personnes qui font. Elle est arrivée, Francesca, avec son sang chaud italienne, et moi, mon sang chaud algérienne avec Zora. Et on a eu la première approche qu'on a eue avec... C'était comment on fait pour pouvoir investir le théâtre du Merlin sans qu'on nous empêche. Et c'est vrai que c'est... on a éclaté, mais on s'est dit, c'est comme ça. Une femme de caractère, c'est important, parce qu'une femme de caractère, elle sait te dire non, mais elle ne te met pas un couteau dans le dos. Donc avec Zora, on l'a un peu, chatouillée. Et elle a répondu à nos chatouilles. Et on s'est dit, avec Zora, ben, on a tout gagné, c'est bon, on peut travailler. Et moi, merci Francesca de faire cette ouverture-là. Parce que quand la première fois, je t'avais parlé de Hassan, tu n'avais pas refusé. Tu m'as dit, moi, je veux voir avec lui. Je t'ai dit, OK. Il est venu te voir et on a fait pour la dédicace de son livre, qui a été un succès. Aujourd'hui, on revient à la charge. Tu ne nous dis pas non. Parce que pour nous, c'est important de raconter cette histoire. Après, c'est vrai que faire 2 jours, c'est lourd. Mais quand ils sont venus me voir, parce que moi, ce jour-là, le mois d'octobre, je n'étais pas présente. Mais on est venu me présenter le truc parce que je ne pouvais pas être là. Je dis, ben, OK, on le fait. Mais je ne pensais pas que c'était aussi gros parce qu'on est parti sur un truc petit. On est arrivé sur un gros truc, mais qui permet aussi à tous ces anciens de venir et de garder cette mémoire, parce que je pense que pour nous, la mémoire, elle est importante, parce que la mémoire, elle nous fait exister. Et la mémoire permet au pouvoir public de savoir que ceux qu'ils appellent, eux, les invisibles, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir. Parce qu'on n'est pas invisible. Il y a des choses qui se passent dans nos quartiers. Il y a de belles choses qui se passent. Il y a de belles rencontres qui se font dans les quartiers. C'est mouvementé, bien sûr. Mais il y a des choses qui se font dans nos quartiers et qu'on a besoin de faire cette passation. J'ai besoin de donner ce que je sais et ce que j'ai appris à d'autres personnes. Je ne sais pas si je peux... Voilà.
Moi, je veux compléter quand même Fatima Mostefaoui. Moi, je l'ai connue quand elle était présidente de l'association des locataires des Flamands. Et elle a été à l'initiative de la pose d'une plaque en mémoire de Lawari Ben Mohamed. C'était compliqué pour trouver une place ou une rue. Donc, on espère qu'à terme, je sais que Fatima l'a toujours en mémoire. Pour le moment, il y a une plaque qui a été apposée sur le mur de l'école de l'IFSI, c'est ça ? Du bâtiment qui abrite, l'école l'IFSI ou l'IRTS. L'IRTS. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette question de la mémoire t'habite depuis très, très, très longtemps. Et je pense que c'est un deuxième rendez-vous aujourd'hui que tu es avec Hassan Ben Mohamed, et puis ce qui va se faire ces 2 jours. Puis après, on espère tous, et je pense toi la première, qu'une place ou une rue porte le nom de Lawari Ben Mohamed.
Alors, on y travaille avec Maméga, hein, parce que et j'en parle à Hassan depuis un moment. On n'a jamais eu trop le temps, parce qu'on est tous pris, mais cette année, avec Jean-Marc et l'équipe de Maméga, on va y travailler pour pouvoir donner le nom d'une rue. L'idéal, ça serait la rue l'avenue Ansaldi, parce que l'avenue Ansaldi, c'est un gars qui s'est fait passer pour un philosophe, donc qui n'existe pas comme philosophe, mais Lawari Ben Mohamed a existé. Et moi, je tiens à dire, hein, parce qu'il y a aussi une histoire personnelle avec Hassan. Moi, j'ai vécu la mort de Lawari, et je le dis souvent, c'est la mort de Lawari parce que, et j'ai pas honte de le dire en vérité, mais ça me gêne un peu, mais je vais le dire, c'est la mort de la Wari qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Même si à un certain moment, j'ai voulu quitter le quartier. Mais c'est la mort de la Wari qui m'a fait comprendre des choses, et après, ce qui s'est passé après. Après, c'est les intervenants qui sont venus au Flamand, Yamina Benchouni, Karima, plein de personnes qui sont passées et qui m'ont permis l'éducation de mes parents, mais aussi cette histoire qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, intraitable.
Moi, je veux bien vous aider, moi, à faire en sorte qu'il y ait un nom de rue. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais je veux bien être avec vous.
Ben, on va y travailler. Hein. Toutes les personnes, elles sont... Parce qu'il y a... Et aussi, moi, je vous rendrai un hommage aussi, parce que... Merci. C'est vrai qu'on parle de la mémoire des Flamands, mais aux Flamands, dans les années 80-90, on a eu beaucoup de jeunes de ma génération qui sont partis. Ils n'ont pas été assassinés, mais ils ont eu une autre mort violente. C'est aussi une image de la société où on était à l'époque et qui continue aujourd'hui dans nos quartiers. Et c'est pas un abandon. Je pense que c'est vraiment avoir mis le couvercle sur nos quartiers, dire que cette population n'existe pas. Et quand on fait des trucs comme ça, ça veut dire « Oh, les gars, on n'est pas invisible. C'est parce que vous n'avez pas envie de nous voir. Mais on est là. Et en même temps, je vais être un peu vulgaire, ce qu'on fait vous emmerde parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc cette mémoire, elle est pour nous et elle restera pour nous. Et c'est nous qu'on doit la porter. »
Je te remercie, Fatima, pour ce témoignage. On va faire notre deuxième respiration musicale et on reviendra après pour continuer autour de la mémoire.
Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies d'où petit musicien veut. Soleils adolescents de la ville de Paris et bouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée pour l'arc du marais et du temple des rosiers. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre. Pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peut-vous vous baigner. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquiez chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer. Tous les oiseaux de vos villages, tous vos échos de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas qu'à danser la fête de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, vous dormez aujourd'hui le retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires. Labourant vos rizières. vienne. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, étranges étrangers, étranges étrangers, étranges étrangers.
Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Galère pour les échos du Grand Saint-Barthélemy. Et nous sommes toujours avec Francesca Polignato, directrice du ZEF, Hassan Ben Mohamed et Fatima Moustefaoui. Nous allons refaire un focus sur le Théâtre du Merlan, enfin le ZEF justement. Parle-nous-en, quel est le cheminement de ce projet et pourquoi cette fusion à la Gare Franche et ce changement de nom?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai été nommée ici, c'était au Théâtre du Merlan, la scène nationale de Merlan, avec un projet qui s'appelle Au fil de l'autre. Donc, c'est donc pour travailler avec le territoire, avec les habitants, avec des artistes, avec des politiques. Et puis, j'ai à peine eu le temps de le poser, donc de 2015, qu'en 2017, la responsable de la Gare Franche est venue me voir. Bon, je la connaissais, on faisait des petites collaborations ensemble. Et voilà, me venant un peu désespérée, puisque les subventions tombaient vraiment de plus en plus. Ils en avaient presque plus. Ils avaient juste de quoi salarier les salariés qui étaient donc encore là. Mais il n'y avait plus d'argent pour faire les projets artistiques et culturels. Et c'est un lieu qui a été créé et vraiment fabriqué par un artiste, hein, Snorko, qui est décédé en 2013. Et donc, moi, je ne l'ai pas connu. Je suis arrivée ici en 2015. Catherine était sa compagne. Donc, elle continuait à diriger ce lieu avec une équipe. Et il n'y avait plus d'argent, puisque l'artiste est en partie. Il y avait un projet, mais que les collectivités ne voyaient plus trop bien. Donc, elle est venue me voir en étant assez paniquée. Et moi, je lui ai dit, j'ai déjà du mal, moi... amène les deux bouts avec une équipe, un territoire que je suis en train d'apprendre, donc ça faisait à peine 2 ans. Mais en même temps, je dis oui, pourquoi pas faire quelque chose de plus ensemble, puisque moi j'ai beaucoup d'artistes ici, que j'ai envie de travailler sur le territoire nord, et que là-bas il y a quand même un lieu qui est très très beau. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment venir le voir. Mais je lui ai dit, ça peut pas se faire comme ça. Donc du coup, j'ai pris mon bâton pèlerin, je suis allée voir toutes les collectivités et l'État, évidemment, à Paris, pour expliquer ce qui s'y passait. Ils ont tous trouvé ça très très bien. Moi, je leur ai dit, oui, c'est bien, c'est très très bien, mais 1 plus 1, ça fait pas 2. Ça veut dire qu'il y a quand même des moyens supplémentaires à mettre aussi, puisque vous en avez enlevé plein là-bas, donc il faut les remettre. C'est un lieu qui appartenait à l'association de Snorko. Donc moi, je ne voulais pas en devenir la propriétaire. Jean-Claude Gaudin a accepté. On a fait une donation. Voilà, donc c'est un lieu qui appartient à la ville, comme le Merlan appartient à la ville. Donc c'est eux qui en sont propriétaires et c'est beaucoup plus simple juridiquement. J'avais pas très envie de changer le nom parce que le Merlan, il est connu partout. Même si c'est pas un très joli nom, parce que le Merlan ça veut rien dire. C'est même pas la rue du Merlan, c'est pas le quartier du Merlan. Mais bon, moi j'étais très fière d'avoir trouvé mon joli M pour faire Merlan. Voilà, jeune directrice avec un nouveau logo, j'étais très contente de ça. Je sentais que l'équipe de la Gare Franche était un peu compliquée parce que je voulais surtout pas que ça fasse absorption. Je voulais pas que le gros bouffe le petit, parce qu'après l'équipe ça peut pas fonctionner. Donc on a mis 2 ans quand même pour travailler ensemble avant que juridiquement et que j'en devienne la directrice. Puis je suis allée me présenter aux habitants du plan Daou, que je connaissais évidemment beaucoup moins qu'ici, il n'y a pas autant d'associations qu'ici, hein, c'est très différent, mais il y en a, et je suis allée les voir, et là c'était très drôle parce qu'ils m'ont dit, ah mais nous on est content que ça soit une scène nationale, c'est superbe, mais ici c'est pas le Merlan, hein. Ici, c'est un autre quartier. Et là, je dis, waouh. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, du coup, j'ai dit, peut-être que c'est le moment aussi d'avoir une autre connaissance par les politiques, une nouvelle scène nationale, d'aller sur quelque chose de nouveau, avec 2 territoires. Et du coup, on s'est mis en petit comité. Et puis, j'ai un responsable de communication qui est extraordinaire. Hein, vous voyez bien, la com est superbe. Voilà, Christopher. Et puis, un graphiste, Stéphane. On a bossé. Et puis, je suis partie sur... la fusion, les atomes, le soleil, qu'est-ce que c'est d'être deux, voilà. Là, là. Puis le mot ZEF est arrivé, il y a eu Zéphyr, ZEF, Et puis Zef, bah, ça m'a fait aussi penser, je suis italienne, mais j'ai quand même vécu 35 ans à Nantes, dans l'Ouest. Et puis dans l'Ouest, on ne dit jamais il y a du vent, on dit il y a du Zef. Voilà, il y a aussi un petit quelque chose aussi qui vient de quelque part. Et puis le Zef ici, ça a une consonance qui marche bien, le Zef. Assina, qui est algérienne, m'a dit « Oh, ça me fait penser à Bézef ». Voilà, j'ai eu plein de petits retours aussi d'équipes. Et puis je vois, bon, à part ici, le Grand Saint-Barthélemy qui a du mal à dire le Zef, parce que le Théâtre du Merlan, je pense que vous venez de le dire, c'est super important. Le théâtre, c'est le Théâtre du Merlan. C'est ce que je dis bien, l'entité est le Zef. Et puis, ben, ça m'a permis, moi, de dire qu'il y a un vent nouveau qui souffle, qu'on est en train de faire un nouveau projet encore plus fort et qu'il doit être extrêmement reconnu vraiment par les élus, parce que ça passe par là, pour qu'on puisse avoir beaucoup de moyens, pour que ces moyens puissent aussi aller vers les quartiers. Voilà, parce que je sais que ça passe toujours comme ça et que je défends beaucoup pour que la politique de la ville revienne dans les quartiers. Je me suis mouillée par rapport à ça, avec le président de la région, notamment, il y a 2 ans, où je lui ai dit que c'était pas juste. Donc là, je pense que je reviendrai à l'attaque, parce que je pense que les élections aujourd'hui sont importantes, voilà, et qu'il y a des certaines voix qui vont aussi pour lui, et qu'il faut faire barrage au RN, hein, j'en profite quand même pour dire ça à la radio, voilà, et que c'est important de remettre les choses aussi dans ces quartiers, qui est, c'est vrai, Karima, que l'espace culturel Busserine n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être, aussi bien financier que qu'est-ce qu'on peut y faire, quel est le projet qui peut être dedans, que les associations ont besoin de plus de moyens, que les centres sociaux doivent faire le travail d'un centre social, le ZEF fait le travail d'un voilà, l'espace culturel, le sien, mais que tout ça, il faut qu'il y ait quand même des liens et avec le respect de chacun, comme dit Fatima. Des fois on dit non parce que c'est pas ma mission, mais des fois je dis oui parce que je trouve que ça c'est super, et qu'il y a des relais qui doivent être pris par l'espace culturel Busserine, par les centres sociaux, par d'autres lieux comme ça, avec nous, où tu fais un énorme boulot, mais et il y a plein de liens avec nous. Et ça, c'est extra, par des artistes, par Eddy. Enfin, voilà, on a trouvé une façon de faire, et j'espère que cette façon de faire, on la trouve avec beaucoup parmi vous, parce que, et c'est pas du tout que nous, on est donneurs de leçons et que nous, on sait faire. Je veux surtout pas qu'on soit dans cette position-là. Mais c'est une position de label, donc ça a un pouvoir, entre guillemets, c'est idiot, mais c'est comme ça. Et parfois, c'est en passant par nous qu'on arrive à obtenir des choses pour vous.
Justement, avec nous, on va essayer de parler de l'ouverture sur le territoire. Est-ce que les artistes et les compagnies du territoire, elles ont, entre guillemets, pas un passe-droit, mais au niveau de la programmation, la réservation des salles ou ce genre de choses-là, comment ça se passe pour ta programmation ?
Alors, j'ai beaucoup de compagnies régionales, hein, oui, et de Marseille ou de la région qui sont artistes associés dans le OSEF. Il faut savoir que quand tu as un label État, quand tu as des artistes associés, je ne parle pas que de programmation, hein, mais même dans la programmation, souvent, ce label-là fait qu'ils doivent avoir un lien avec la DRAC. D'accord. Quand tu n'as pas de lien avec la DRAC, il faut vraiment que tu défendes le pourquoi tu accueilles ces artistes-là. Après, que ça soit la fabrique artistique, qu'il faudra que vous veniez voir, parce que ça vaut le coup d'œil, c'est une grande usine de 1000 m², ou le studio. Ici, dès qu'on peut, qui que ce soit peut venir y travailler. Okay. Ça a toujours été ouvert. Voilà, Caroline s'en occupe, ou Amandine ou moi, on reçoit les artistes, on voit si, voilà, s'il y a besoin. Là, je voudrais voir le collectif jeune qui a besoin de se réunir, par exemple. Ben, j'ai envie de les voir pour leur dire c'est possible, même si c'est le soir, à voir comment on peut donner la clé dans le studio pour qu'ils puissent. Ben, tout ça, c'est possible. Après, il y a un projet qui est énorme avec 10 artistes associés. Donc, ils ont besoin de prendre du temps de travailler, du temps pour travailler sur le territoire. Vous avez dû voir le désir de regarder loin. C'en est partout. Ilaria, 3 ans et demi. Voilà, donc tout ça. Après, voilà, c'est comme disait tout à l'heure Karima, je ne peux pas répondre à tout. Le Théâtre du Merlan ne peut pas répondre à tous les besoins du Grand Saint-Barthélemy. Et ce n'est pas que je ne peux pas. Que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas possible, impossible.
Juste pour refaire toujours des allers-retours entre le Théâtre du Merlan, le ZEF, mais on va le dire le Théâtre du Merlan, puisqu'en 2013, c'était le Théâtre du Merlan. Donc en 2013, c'est une année très particulière de tension, je dirais, entre le Théâtre du Merlan, c'était une autre direction, et puis un ensemble d'acteurs associatifs, dont Fatima en faisait partie, moi-même sous une autre étiquette, etc. il était question que le label scène nationale soit retiré au Théâtre du Merlan et on s'est opposé. Donc se dire qu'on a un vrai attachement au Théâtre du Merlan, à ce label de scène nationale. Nous avons été reçus et audités par... on a rencontré une personne missionnée dans le cadre d'une audite par le ministère de la Culture. On en a discuté en collectif avec elle et on a dit, évidemment, pour nous, il faut conserver le label scène nationale pour le Théâtre du Merlan. Donc ça montre effectivement cet attachement, non seulement à ce lieu culturel, mais aussi, on sait qu'un label, ça fait rayonner non seulement le théâtre, mais aussi le territoire qui est à proximité.
Mais je le sens très fort, hein, que vous êtes très très attaché à ce lieu. Moi, je dirais toujours, je prends l'exemple d'un monsieur qui vient jamais au théâtre, mais dont sa fille travaillait chez nous à un moment donné. Elle était agent d'entretien et puis on a fait un colloque. Je sais pas, Fatima, tu vas peut-être t'en rappeler parce que tu étais là. Et à un moment donné, ce monsieur a pris la parole. Il a dit, moi, je viens jamais au Théâtre du Merlan parce que j'ai pas envie. C'est pas. Mais j'habite tout près. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on me demande où est le commissariat, je dis, vous voyez. Non, quand on me demande où est Carrefour, où la bibliothèque, je dis, vous voyez où il y a le Théâtre du Merlan ? Eh bien, où voyez le théâtre ? Le commissariat est à côté. Ça veut dire qu'il présente le théâtre pour dire où se trouvent les autres. Et ça, pour moi, c'est gagné. Je veux dire, même s'il ne vient pas, il y a un théâtre là et il sait qu'il existe.
Ouais, moi, je voulais juste rajouter, parce que nous, avec la fabrique numérique au Flamand, on doit... On fait du pré-apprentissage pour des gamins de 16 à 25 ans sur tout ce qui est machine numérique. Mais on doit les accompagner au niveau de la recherche d'emploi, mais aussi les relever et leur donner un peu plus de confiance en eux par rapport à la société qui les fracasse. La première des choses, quand on a fait les ateliers, moi j'ai dit à la CIP, t'as le Théâtre du Merlan, il faut que t'ailles au Théâtre du Merlan. Il y a Eddy, il faut que tu travailles avec Eddy, voir s'il y a la possibilité, pour qu'en fait les gamins se retrouvent et jouent des jeux de rôle, je ne sais pas, mais ils ont fait des trucs... Il y avait des filles qui étaient timides, il y avait des garçons qui étaient... qui n'avaient pas envie de parler à d'autres filles ou à d'autres garçons, d'autres quartiers. Ils se sont retrouvés tous au même endroit et ils ont fait un truc. Moi, dans l'association, ça m'a permis à permettre à des jeunes de dire, ben ouais, moi je veux bien... J'ai envie de suivre cette carrière-là. On a eu deux jumeaux, super beaux jumeaux, qui habitent vers la Belle de Mai. On les voit, hein, on leur a dit il y a le théâtre, ils sont partis. Là, tu les vois, ils font des TikTok, on leur a fait un shooting photo. Mais le théâtre leur a permis aussi et de voir quelqu'un comédie qui était vraiment. Et une scène nationale qui s'ouvre à eux. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que ce qu'elle disait Karima, le fait que ça reste scène nationale, pour nous c'est important. C'était un petit théâtre, c'était une salle polyvalente. Aujourd'hui on a tous grandi, ça devient une scène nationale. Mais aussi, c'est vrai que de temps en temps, moi je suis une râleuse, mais je me dis il n'y a pas de programmation pour nous, mais peut-être que pour nous c'est pas... Mais peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas... On a peut-être perdu l'habitude, parce qu'avec l'ancienne direction, on avait perdu l'habitude d'aller automatiquement au Théâtre du Merlan, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont, quand il y a les programmations, ils y vont, et c'est très bien, et c'est un atout majeur, sans oublier l'espace culturel, parce que tu disais tout à l'heure que tu ne pouvais pas tout faire. Ça veut dire que l'espace culturel a apporté beaucoup dans les quartiers, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, on les a un peu diminués. Et ça, il faut qu'on recommence, parce que la guinguette, ça a porté. Si pour certains, c'est rien, mais pour nous, la guinguette... Alors tout le monde veut nous faire du commun et des tiers-lieux et machin. Mais vous inquiétez pas, il y a tout déjà. C'est juste qu'il faut maintenir ce qu'il y a dans le territoire et améliorer. Parce que tu ne peux pas tirer quelqu'un vers le bas et lui dire qu'il faut qu'il améliore à chaque fois.
Ah non, mais en plus, l'espace culturel Bucerine, je dis que vraiment, il faut... qui redevienne ce qu'il a pu être. Voilà, parce que moi, je travaille beaucoup avec la Tifa dans le Printemps de la Danse et je pense que je l'ai beaucoup aidée parce qu'au moment où elle s'est retrouvée, où il y a eu le Front National et qu'elle ne pouvait plus rien faire, qu'il y avait des travaux qui ne se faisaient jamais, moi, je lui ai dit, tu le fais chez moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, tu viens sur le plateau. Et du coup, maintenant, on le fait ensemble. La collaboration artistique, elle est ensemble. On va voir les spectacles ensemble. Et du coup, on finance ensemble. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Mais il faudrait que ça soit beaucoup plus que ça. Ce lieu-là, il faut voudrais qu'ils vivent beaucoup plus que ça et qu'il y ait vraiment une vraie fourmilière pour que les enfants, les ados, les adultes puissent aller dedans, qui sera complètement complémentaire avec ce que peut proposer le ZEF. Et c'est ça qu'il n'y a pas. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les spectacles, Fatima. Notamment les femmes de Flamand, elles viennent toutes seules. Elles ont même fait la balade de 16 km qui part du Théâtre du Merlan jusqu'à la Gare Franche. Elles sont extraordinaires. Je les aime vraiment.
C'est ce que je disais, il y a de plus en plus de gens qui viennent au théâtre. Moi, je ne suis pas très théâtre, mais s'il y a une programmation qui me plaît, je viens. Mais autrement, il y a beaucoup de gens qui y vont. Et c'est rentré, en fait.
L'année dernière, il y avait une belle programmation sur l'Algérie. Malheureusement, le Covid est passé par là.
C'est terrible.
Justement, au moment de la fusion, qu'est-ce que ça apportait de plus par rapport à ce qui existait avant? Pour ceux qui connaissent déjà le Théâtre du Merlan, qu'est-ce que ça apporte de plus, à votre avis?
Ah, ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que ça apporte surtout... ça apporte qu'il y a d'autres territoires qui peuvent bénéficier de la scène nationale, et voilà, avec lesquels il se passe beaucoup de choses, notamment sur le plan d'Aou. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça permet en tous les cas que les artistes... moi, ça m'a donné des moyens supplémentaires dans le sens où les artistes, aujourd'hui, il y a une bastide où ils peuvent dormir. Il y a une maîtresse de maison qui leur fait à manger. Donc autrement, sinon, c'est des hôtels. Quand ils viennent ici 15 jours, ça me coûtait énormément cher. Donc je ne pouvais pas avoir plein d'artistes qui travaillent sur les territoires. Alors que là, maintenant, avec ce lieu-là, il y a 9 couchages, 9 chambres. Il y a des jardins partagés. On travaille avec des habitants. Ils ont des jardins. Il y a un jardinier et un animateur jardin qui travaille avec ses habitants. Les artistes font aussi. On passe du jardin à la cuisine. On a ouvert. On n'est pas dans le spectacle vivant. Il y a un artiste associé qui est un chef cuisinier, par exemple. C'est Emmanuel Perraudin. Vous aurez l'occasion certainement de le rencontrer. J'espère qu'on fera des choses avec vous. Mais voilà, c'est une ouverture je pense qu'on est un peu unique, du coup, comme scène nationale. Et c'est de ça qu'il faut en être fier.
Juste, moi, je voulais revenir effectivement sur l'espace culturel Busserine, qui est un lieu emblématique dans ce territoire, à 2 pas du Théâtre du Merlan. Quand on nous a présenté le futur projet de rénovation urbaine de Saint-Barthélemy, Busserine-Picon, hein, puisqu'on appelle communément le PRU de Saint-Barthélemy, le premier projet qui nous a été soumis, c'était effectivement que l'espace culturel Busserine, là où il était, allait être déplacé un peu plus bas et qu'il allait doubler en capacité d'accueil. Parce qu'effectivement, il y avait une telle demande de la part de l'ensemble du territoire de la mairie d'arrondissement, donc du 13e et 14e arrondissement, au regard de sa capacité actuelle, il ne pouvait pas pouvoir répondre aux demandes, aux diverses sollicitations, ce qui provoquait une grande frustration, notamment des acteurs culturels des 13e et 14e arrondissements. Donc on nous a dit, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Nous, évidemment, on a dit banco, un équipement culturel qui double sa capacité d'accueil, ça permet de répondre de façon peut-être un peu plus favorablement aux sollicitations des acteurs culturels. In fine, il n'y a pas eu de doublement de capacité d'accueil de l'espace culturel Busserine. On a toujours le même équipement, avec effectivement cette période de 6 ans de gestion par le Rassemblement national, à l'époque le Front national, mais c'est la même chose, qui effectivement n'était pas du tout ouvert sur le territoire. Ça a été dramatique. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité qui est en place, mais du fait du confinement et de la pandémie, on a très peu de lisibilité aujourd'hui de ce que peut proposer cet équipement aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faudrait interpeller et même je proposerai, mais après avec le comité Mamega et puis d'autres acteurs, avec Fatima et d'autres, qu'il y ait une vraie discussion avec à la fois l'espace culturel Busserine, le ZEF, et de dire mais qu'est-ce qu'on fait de cette situation?
Je pense que c'est important. Et puis d'y associer la mairie centrale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le 13-14e, mais ça appartient quand même à la mairie. Et que c'est vrai que les 6 ans du Rassemblement national ont vraiment puni tout ça, hein, ça c'est clair. Donc peut-être que c'est le moment, avec une nouvelle municipalité, avec un arrondissement qui n'est pas de la même couleur que la municipalité centrale, mais quand même avec qui ils travaillent ensemble, c'est peut-être... Voilà, ça a toujours été... Peut-être que c'est le moment de trouver un moment... pour mettre ça sur le tapis. Je crois que c'est le moment de le faire.
En tout cas, Francesca, je te remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous au cours de cette émission. On va continuer.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, on va continuer chez Francesca, mais en attendant, on va faire une respiration musicale avec Grand Corps Malade, pas essentiel.
À pourrais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel, pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus, si pour faire la fête sont un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclus. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. C'est quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Nous sommes à nouveau en direct des Échos de la Busserie, où la bonne ambiance est présente. Vous avez pu l'entendre à travers les rires de Madame Fatima Mostefaoui, n'est-ce pas? Donc nous sommes toujours en présence de Fatima Mostefaoui, de Hassan Ben Mohamed, et là, Madame Oh là là, tu vois, tu m'as fait bugger avec ton rire. Madame Mostefaoui va nous parler de Passe en nous. Enfin, oui, c'est Passe en nous. Avec nous maintenant.
Avec nous.
Avec nous, justement.
Le négatif, on est devenu positif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
Quel est l'objet de cet assaut? C'est bien un assaut? Où est-ce que vous êtes implanté? Qu'est-ce que vous faites? Quand?
Alors, on est une association, mais l'association est partie d'une petite association de locataires, comme le disait Karima tout à l'heure. Et en fait, on est venu juste pour... on s'est monté pour créer et s'occuper de tout ce qui était la rénovation urbaine. Et moi, je n'avais pas l'intention de rester 20 ans, mais j'ai l'impression que j'arrive à mes 20 ans. Parce que c'était une histoire personnelle qui m'a fait réagir sur ce qui se passait au Flamand au niveau de la rénovation urbaine. Et ensuite, je crois que j'avais un peu une petite graine de militantisme. Et on a continué à faire ça. Et après, j'ai connu Karima, même si j'entendais parler d'elle. Et j'ai connu J'ai connu quelques acteurs du Saint-Barthélemy. Et après, je connaissais les anciens, donc ça m'a rejeté dans mon adolescence. Donc j'étais ravie d'être là, mais ça nous a permis aussi, au niveau de l'association, d'évoluer. Et avec les années, on s'est occupé de l'ANRU, mais après on s'est dit, l'ANRU, ce n'est pas que la rénovation, il y a le travail, il y a la dignité humaine, il y a l'égalité. Et c'est vrai que j'ai eu des professeurs autour de moi qui me permettaient de comprendre les choses. Et la meilleure institution qui m'a permis de comprendre l'inégalité et le mépris, c'est l'institution. Et voilà, elle-même. Donc, je me mettais des points d'honneur à chaque fois. Et à chaque fois d'avancer. Et aujourd'hui, on arrive, on s'appelle avec nous. On a de fabrique numérique, de médiation numérique. On a essayé d'être les précurseurs sur le territoire, mais il y en avait d'autres avant nous, mais qui l'ont fait différemment, comme Sheba, comme d'autres associations, comme les centres sociaux, pour mettre des lieux où on pouvait faire du numérique. Mais là, on ramenait du savoir. On faisait des ateliers avec les habitants pour leur permettre d'utiliser, de créer une boîte mail, parce qu'on savait qu'il y avait une fracture numérique chez nous. Il y en a beaucoup qui le savaient depuis longtemps, mais chez nous, tout vient en retard. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas créer ça? Donc on a, avec le POLES qui est sur Paris, en consortium, on a créé deux médiations numériques. Et les fabriques numériques sont portées, et c'est la première fois, elles sont portées par un collectif d'habitants et un nom propre. Et c'est de l'argent qui vient au niveau du national. C'est de l'argent qu'on a su. Ça a mis en évidence qu'une petite association avec des habitants dans les quartiers, elle est capable, quand on lui donne l'ingénierie, parce que ce qu'on nous a donné pour la fabrique numérique, le POLES nous a donné l'ingénierie, elle est capable de porter des 160 000 euros, des 200 000 euros dans les quartiers, parce que souvent, on a la petite miette de 1500 euros, et en plus, tu dois remplir un dossier... de typage, 30 pages, comme si tu touchais 150 000 euros. Donc c'est ça aussi notre spécificité, c'était de surtout de montrer, et elle le sait carrément, parce qu'on a toujours revendiqué ça, c'était l'expertise des habitants. Elle est importante dans nos quartiers. Et n'importe quoi qu'ils fassent des choses, s'ils ne le font pas avec nous au début du démarrage du projet, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a des endroits, par exemple, moi je vais dire, au Flamand, ça fonctionne. Et ça a fonctionné parce que les habitants se sont battus aussi pour que les loyers n'explosent pas. Ils ont explosé, ils sont revenus, ils partent dans le neuf, ils payent comme s'ils étaient au Flamand. Ils ont changé d'arrondissement. Ça permet aussi, mais on ne le voit pas, parce qu'on ne nous le dit pas, parce qu'on ne nous dit jamais ce que le boulot que vous faites est bien. Mais ce qu'on s'est battu au Flamand, ça a permis à d'autres endroits en rue de faire attention de ce qu'ils voulaient les habitants. Ça veut dire que nous, ce qu'on a fait au Flamand, par exemple, aujourd'hui, on fait une place de marché. On veut faire une place de marché bio. On s'est battu pour cette place de marché. MRU nous a entendus, les institutions nous ont entendus. Aujourd'hui, dans chaque quartier où il y a une rénovation urbaine, il y a une place de marché. Mais quand nous, on a demandé la place de marché, on ne l'a pas demandé pour faire une place de marché, pour qu'on vienne nous vendre tout et n'importe quoi. On a demandé une place de marché parce qu'on nous bassine les oreilles avec le bio. Mais le bio, tu ne peux pas le manger si on te vend 4 euros le kilo de carottes. En même temps, on travaille avec des femmes qui cuisinent super bien, qui peuvent être des chefs d'entreprise. Mais on les appelle qu'à des endroits pour faire des petits buffets et les entendre dire « Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique, vous pouvez me donner la recette. » Mais ces femmes-là, elles ont un savoir. Comment on fait que ces femmes travaillent sur ce qu'elles savent faire et comment elles le mettent en vente pour ça leur permet d'avoir de l'argent, un salaire. Et ça permet aussi de redonner, parce que quand tu redonnes la dignité aux parents, parce que... ils ne travaillent pas. Tu redonnes la dignité aux gamins. Et ce travail, en vérité, il me trône dans la tête depuis des années. Comment je fais? Et on est arrivé parce que j'ai trouvé les bonnes personnes. J'ai fait les bonnes rencontres. À l'époque, quand j'étais bien souvent sur le Grand Saint-Barthélemy, j'ai fait des rencontres. Il y a eu des discussions qui sont faites. Il y a des choses qui se font et on le voit. Hein. Aujourd'hui, nos idées qu'on avait et ce qu'on voulait faire, ben, tu le vois dans des petits quartiers, ça pousse. Par exemple, moi, je sais que MRU ramène des gens d'Herbel pour visiter ce qu'on a fait aux Flamands. Il les ramène pas parce qu'il m'aime bien, hein, Olivier Cadier. Il ramène parce qu'il y a des résultats.
Non, mais il t'aime bien aussi.
Il m'aime bien aussi. Moi, je l'aime bien aussi parce que le pauvre, je l'ai fait... Il a souffert au début quand il est arrivé. Mais il y a eu des techniciens à un moment, parce que souvent, on se dit les techniciens, mais il y a eu à un moment des techniciens qui ont été d'accord avec ce qu'on disait. Parce qu'eux aussi, ils étaient en souffrance au travail. Et ça a permis aussi d'avancer. Et ça a permis de faire avancer les choses. Pas comme on voudrait que ça avance, mais en attendant, il y a des choses qui ont avancé. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens, il n'y a jamais rien qui se fait. C'est pas vrai, on a fait des choses, il y a eu des choses qui sont faites. Et c'est pour ça que c'est important les journées de mémoire, c'est important. Il faudrait qu'on le fasse en vérité dans tous les quartiers. Pourquoi je dis en vérité à chaque fois, mais c'est toujours pareil, c'est mon neveu qui me...
C'est pas grave. Mais c'est voilà. Très bien que tu nous parles justement de cette mémoire.
La mémoire, c'est important de la faire, et c'est dans chaque quartier, on a une mémoire en vérité qui est différente dans notre quartier. Il faut qu'on la travaille et qu'on la transmette, parce que ça permet de redonner une dignité à certaines personnes, et qu'il y a eu des choses qui sont faites avant, parce qu'on ne peut pas effacer les gens. On ne peut pas effacer les gens parce qu'il y en a qui décident, on nous gomme.
Justement, en termes de mémoire, demain donc, et après-demain, donc demain c'est au Théâtre du Merlan, il y aura une table ronde, apparemment c'est à guichet fermé. Et est-ce que vous avez prévu d'enregistrer ou de faire des Facebook Live ou autre chose, des choses comme ça?
Alors, normalement, ça doit être filmé. Il y aura sûrement un Facebook, parce qu'on a plein de jeunes avec nous, hein, ils ont des Facebook, et je pense qu'on fera sur avec nous et Flamand Rice. Il y aura ça, il y aura un film, et c'est important de filmer de tout ce qu'on fait, et peut-être qu'un autre jour, on pourra faire une journée avec plein de quartiers où ils ont de la mémoire, et peut-être faire une journée entière sur la mémoire des quartiers, tu vois.
Vous le connaissez Zahir Idri, oui. Qui est un habitant des Flamands. Parce que moi, je travaille actuellement à Herbel, et effectivement, à la fois, on les a accompagnés sur l'écriture de la charte de relogement. C'est beaucoup appuyé à la fois sur celle qui a été écrite par rapport à Picon et à Busserine. Mais à l'époque, tu nous avais alerté en disant, faites attention, la charte de relogement, il faut que ce soit un préalable à toute destruction et reconstruction du logement, de garantir à ceux qui vont être dans l'obligation de quitter leur appartement, d'avoir des droits de relogement dignes et des loyers abordables. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est important de dire que dans ces quartiers, l'information, elle passe d'un endroit à un autre, et que ce qui a été vécu par un groupe d'habitants, soit en aspect négatif ou positif, doit être transmis aux autres pour éviter les écueils qu'ont pu connaître ceux qui n'ont pas pu effectivement garantir des relogements dignes d'habitants. Ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il vous en a parlé, Zahir Idri. La question de la mémoire, ce n'est pas une question nouvelle. Hein. C'est pas une question nouvelle. Elle n'appartient pas qu'au Grand Saint-Barthélemy, elle n'appartient pas aux Flamands. Je pense que c'est pour avoir un peu travaillé sur cette histoire via le comité Maméga. Moi, j'avais un peu potassé à l'époque, et les grands ensembles, aujourd'hui, à l'époque, moi, c'était en 2000, donc ils avaient 40 ans d'existence. Aujourd'hui, ils ont 60 ans d'existence. Ça veut dire que tu as trois générations. On a trois générations qui sont passées par les grands ensembles et qui nous racontent aujourd'hui une histoire et une mémoire qui est collective. Une histoire, parce qu'elle rentre dans l'histoire nationale française. Les grands ensembles, aujourd'hui, nous disent quelque chose de cette histoire de la France. Et puis la mémoire, c'est la mémoire de ceux qui ont vécu dans ces grands ensembles. Ils nous disent quelque chose de cette histoire-là. Et donc, je ne sais pas si vous en a parlé à Seine, mais il y a le projet d'un tiers-lieu à Herbel, puisque l'Herbel, comme je vous l'ai dit, fait l'objet d'un PRU. Et dans ce PRU, enfin, nous, on est plutôt satisfaits, dans le sens où, à terme, un tiers-lieu va sortir de terre pour porter l'histoire des grands ensembles. Et je pense que là, nous tous, qu'on soit le comité Maméga, que ce soit avec nous, le collectif, alors je ne sais pas si à terme, ce collectif qui s'est construit et qui organise ces deux jours, est-ce qu'à terme, il va prendre l'aspect d'une association? Est-ce qu'il va être organisé en association pour porter cette mémoire des Flamands, qui est une mémoire remarquable, qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut transmettre, qu'il faut partager avec les autres, parce qu'on a en commun à travers l'histoire de ton frère, avec l'histoire des Minguettes, avec l'histoire de d'autres banlieues de France. Je sais pas, je te pose cette question, désolé pour les animateurs, mais il faut vraiment que... Parce que quand c'est un groupe informel, le lendemain de samedi, ça disparaît, quoi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va se pérenniser, sous quelle forme?
Oui, si, si. Excuse-moi, quand tu dis ton frère, c'est donc Lawari Hassan Ben Mohamed, donc le frère de Lawari, parce qu'on n'est pas juste entre nous.
Oui, effectivement, le collectif est né et on en a sorti une association qui a été déposée, Flamand Rise, elle est existante officiellement depuis peu. Et il y a déjà d'autres projets qui se greffent. On commence à avoir un peu de visibilité. Ça a été très vite. Ça a pris très rapidement, Fatima peut un peu en témoigner. Et là, il a aussi d'ailleurs, parce que On est déjà sollicité alors que l'association n'était pas créée. Et effectivement, on ambitionne de travailler sur les problématiques de la mémoire, la transmission de la mémoire, plus largement, hein, pas uniquement sur la mémoire de mon frère, mais effectivement, ça va être le moteur, ça c'est sûr. Et il y a de beaux projets qui s'annoncent. On ne peut pas en parler trop tôt, mais il y a de belles choses. Je vais présenter justement un projet de bande dessinée photo que j'avais dans les tuyaux et que je sors justement pour l'occasion. Et d'ailleurs, l'affiche du 26, elle a été faite par mon collègue dessinateur. Quand je dis collègue, parce qu'on exerce le même métier. Et justement, j'ai une planche photo, j'ai une planche BD et quelques dessins à présenter à l'expo, qui vont annoncer ce travail-là. Ça va être un travail sur un an, deux ans, hein, assez long terme quand même. Mais voilà, il y a encore d'autres choses. Enfin, il y a plein de choses et.
Je vais peut-être, excuse-moi Hassan, mais quand on a, alors parce qu'aujourd'hui c'est l'association avec nous qui porte le projet, mais aussi qui permet aussi au collectif, hein, parce que on était deux, on était trois, on était quatre, d'un coup je me retrouve avec un groupe WhatsApp, je ne sais pas qui est qui, j'ai des sollicitations de partout, ça veut dire que aujourd'hui, tu as des gamins qui sont partis des Flamands, comme Hassan, comme d'autres, reviennent avec plaisir. Il y a des anciens. Moi, j'ai vu la liste du Théâtre du Merlin. Je me dis, mon Dieu, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Et il y a tout ça qui se met. Mais l'idée aussi de l'histoire, parce que je crois que les Flamands, on a bien vécu jusqu'à la mort de la Wari. À la mort de la Wari, c'est là où les Flamands, on a pris un coup et on a tous compris quelque chose. Et je pense que cette histoire-là, il faut la transmettre parce que le fait de la transmettre, mais pas la transmettre que l'histoire de la Wari, parce qu'il y a eu d'autres histoires, mais transmettre par exemple sur la rénovation urbaine, parce que moi j'en ai marre d'entendre les gens, il ne se passe rien, il n'y a jamais rien qui se fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans les quartiers, il y a des choses qui se sont passées, bien ou mal, mais on est quand même responsable de, et on est responsable tous, et je te le dis souvent Karima, que nous, ceux qui sont dans l'associatif, on est responsable en vérité de ce qui peut se passer dans les quartiers, parce que nous, on est à même de comprendre peut-être beaucoup plus, parce que l'habitant lambda, il est dans ses problèmes et machin, et qu'est-ce qu'on peut lui rapporter pour que lui comprenne que ça, c'est important de faire. Et on l'a fait. Il y a eu des choses qui sont faites, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent ailleurs, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, et dans les années 2030 ou 2040, il y aura des choses qui vont se faire. Ça veut dire comment on accompagne ça, pour qu'en fait, jamais, jamais personne ait honte d'avoir grandi dans un quartier, avoir vécu dans un quartier et pouvoir être fier de ce qu'il est, ce qu'il était, ce que ses parents ils étaient. Parce que nous, à un certain moment, on avait une génération qui ne savait pas trop si on était algérien, si on était français. On avait. Là, aujourd'hui. Pas,
Oui. On ne sait toujours pas.
Non, moi aussi, je suis française.
Ouais.
Donc.
Oui, toi, tu le sais ce que tu es, mais les autres, je ne sais pas quand tu.
Avec le drapeau algérien. Donc, tu vois, c'est. Ouais, c'est Radio-Canada.
Oui, ben sinon, on ne serait pas permis.
Tu vois, il y a des trucs, et ça, c'est important. Et quand on dit avec le projet de Flamand Rice, ça s'est fait naturellement. Et moi, je suis contente, en vérité, de travailler avec eux et de leur montrer ce que je sais. Et ils me montrent aussi ce qu'ils savent, parce qu'il n'y a pas que moi qui sais. Et de pas de les accompagner, mais de les outiller pour leur dire, voilà, il y a cette étape-là qu'il faut passer. Et là, je pense que ça y est, ils sont lancés. Demain, ils n'auront plus besoin de nous. Ils seront là. Ils ont un projet. Mais le projet, il faut qu'il reste collectif. Quand tu parlais de Zahir tout à l'heure, Zahir, il est avec nous. Il est partenaire. Il est même dans le groupe. C'est vrai que dans chaque quartier, on doit développer. Dans chaque quartier, on doit développer tout ça. Parce que personne n'a le droit de prendre la mémoire de l'autre. Chacun parle de sa mémoire, mais comment on le fait pour qu'on parle des grands ensembles et comment on y travaille?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Fatima. Après avoir un tiers-lieu qui sort de terre pour dire et raconter la mémoire des grands ensembles, pas seulement marseillais, mais au niveau national, c'est très important. Mais ce qu'on avait défendu avec le comité Maméga sur l'histoire de la mémoire, parce qu'on a commencé à travailler en 1994-95, donc ça remonte à quelques années maintenant, voire quelques décennies, de dire que la mémoire, elle appartient à tout le monde. Mais chacun choisit son entrée, là où il se sent à l'aise. Donc le comité Maméga, bon, c'était à travers un livre, parce que vous voyez, au comité Maméga, il y a des livres. C'est un choix qui est fait par l'association. Je sais que pour les Flamands, les Péchis, c'était la photo. Jean-Pierre Ega, c'était la création chorégraphique. En fait, là où les personnes... Là, tu vois, tu parles d'une bande dessinée, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce territoire va additionner tout un ensemble de productions artistiques et culturelles. Le chant aussi, tu parlais des chansons, des trois ou quatre chansons qui ont été écrites après le décès de ton frère. Tout ça fait partie de la mémoire. La mémoire des Flamands, mais pour nous, ça fait partie de la mémoire du Grand Saint-Barthélemy. Tu vois ? Parce que comme tu le sais fort bien, il a été assassiné à la Busserine, c'est-à-dire ici, à deux pas.
Juste à côté.
Et juste à côté.
Ça m'a fait bizarre.
Ça t'a fait bizarre, ouais. Tu vois, de passer juste à côté. Et il y a aussi un autre jeune homme qui a été assassiné, ouais, quelques temps après. Kamel Nozair.
Zahir Boudjelal, ouais, le frère de Kamel.
Zahir Boudjelal, lui, par un raciste. Donc, et aussi dans ce quartier, donc...
Ça rappelle justement un peu l'histoire de l'époque. Demain, Bongdi sera dans la table ronde. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Rengainé, on arrive ».« Rengainé, on arrive », c'était un peu les crimes racistes et sécuritaires, puisque les deux existaient, et les crimes policiers, parce que tous ces éléments existaient à ce moment-là. Dans les années 80, si on va un peu avant, donc en dehors des crimes racistes, les expulsions de jeunes issus de nos quartiers, c'est-à-dire qu'ils étaient plus ou moins français, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'ont pas fait les démarches pour être français, mais qui avaient le droit d'être français, et qui se retrouvaient expulsés dans un pays où ils ne connaissaient personne, ou alors des vagues cousins, etc. Donc ça, ces éléments d'histoire, ça permet aussi de relier les choses. Et c'est vrai que quand on a préparé la marche, moi j'étais ici dans les organisateurs à Marseille. On a fait des réunions ensuite avec des régions un peu partout en France. Et on s'est rendu compte que c'était la même chose partout. C'est-à-dire que c'était pas juste les Flamands, le Grand Saint-Barthélemy, etc. C'est-à-dire que les problématiques étaient à peu près les mêmes partout. Et que donc les solutions étaient à chercher de manière globale et pas penser que c'est seulement des événements ponctuels. Et un autre écho que je vois aussi, moi, c'est la question des violences policières, puisque c'est vrai que tant que ça se faisait dans les quartiers populaires, on n'en parlait pas beaucoup, c'était pas très grave. À partir du moment où c'est arrivé dans la centre-ville, dans les manifestations, les gens ont commencé à comprendre ce que disaient les gens des quartiers populaires, qui disaient que les rapports avec la police étaient toujours très, très tendus et qu'on ne les écoutait pas. On se disait « Ah ben, c'est peut-être des voyous et donc c'est normal que les rapports soient tendus ». Et donc là, ça a montré que tout ce qui s'est passé avant, c'était un peu précurseur de ce qu'on vit maintenant.
Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais. La mémoire, elle appartient à tout le monde. Et tu as raison. Mais le problème, c'est qu'elle appartient tellement à tout le monde que bien souvent, c'est les personnes concernées par cette mémoire ne se l'approprient même pas. Alors, pour X ou Y raison, peut-être qu'ils sont pris par leur quotidien ou d'autres choses. Mais le souci, et c'est pour ça que moi, je me suis approprié, entre guillemets, l'histoire de mon frère, parce que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui venaient pour en parler encore et encore et encore. Et c'était des personnes extérieures au quartier, extérieures parfois même à Marseille. Et ils venaient raconter une histoire à leur manière, de leur point de vue, et une histoire que même des fois, ils la connaissent mieux que toi. Donc ça, c'est ce qui a déclenché, voilà, c'est un des facteurs qui a déclenché aussi le travail que j'ai fait autour de mon livre. Le livre, c'est 4 ans de recherche parce qu'il a fallu tout retrouver et tout rechercher. J'ai malheureusement pas pu tout retrouver parce que j'aurais pas fini encore. Mais voilà, tout ça pour dire que la mémoire, oui, elle appartient à tout le monde, mais il faut savoir aussi se l'approprier et prendre les devants parfois.
Non, mais et surtout que quand c'est la mémoire d'un quartier, elle peut appartenir à tout le monde. Mais moi, par exemple, je me sens pas légitime. Malgré qu'Hassan me dit que oui, mais je ne me sens pas légitime de porter parce que l'histoire de la plaque, tu te rappelles, pour nous c'est, et pour moi c'était important qu'ils soient d'accord avec nous parce qu'on devait la porter, et c'est vrai que c'était leur histoire en vérité. Mais comment leur histoire fait avancer tout ça? Une histoire de quartier, c'est tout le monde peut la porter, mais une histoire personnelle, parce que c'est difficile de parler d'une histoire, surtout d'un être que tu as perdu. Moi, pour moi, c'est compliqué. Je ne peux pas me permettre, par exemple, aujourd'hui, on parlait du petit Boudjelal. Je ne me sens pas légitime de parler de sa mémoire à lui. Mais c'est important que les familles prennent cette mémoire qu'ils ont, qui leur appartient, et qu'ils la prennent et qu'on on la fasse ensemble. Ouais, peut-être que...
Non, mais tout à fait d'accord avec toi. Je dis, alors peut-être que je dois préciser ma pensée. En fait, pour moi, il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire qui est intime, qui est personnelle, et ça, tu as raison, elle appartient à ceux qui sont concernés directement. Ils ont soit la possibilité de la raconter, soit de la taire. Ça, c'est leur choix. Après, sur les crimes racistes, ou ce qu'on appelle les crimes sécuritaires, c'est une histoire collective. Je veux dire, que ce soit un universitaire, que ce soit un historien, que ce soit une association dans un quartier de banlieue ou dans les quartiers populaires de Marseille, ils sont légitimes pour raconter cette histoire plurielle, collective. Mais tu as raison, il y a l'histoire intime et il y a l'histoire collective. Et c'est là où il faut faire attention.
Je suis tout à fait d'accord, mais l'histoire collective, elle te rattrape quand on vient parler, quand on demande à interviewer ta maman, à tes frères. Quand elle pénètre dans la sphère familiale, personnelle, là, ça devient personnel. Donc du coup, ça déclenche, moi, c'est ce qui a, ça a été mon déclencheur. Mais pour revenir à ce qu'elle disait, Fatima, je crois que c'est un réalisateur japonais qui avait fait un film il y a bien longtemps où il avait mis en scène trois personnages qui assistaient à un crime. Et tout le film, il tourne autour de ça. Et chacun, en fait, ils assistent à la même scène, mais ils n'ont aucun à la même version. Et en fait, c'est pareil. Si tu veux reconstituer la mémoire, mais il faut avoir la version de tout le monde. Il faut avoir la version des uns et des autres. Et toi, tu as une partie. Tu regardes ton image avec ton angle de vue, mais tu apportes ta pierre.
Ma pierre,
et ouais. C'est la seule manière pour récupérer des petites pièces qu'on a perdues.
Ouais.
Excusez-moi, le débat est très intéressant, mais on va devoir...
Quitter.
Ouais, on vient à 15h.
On était bavards.
14h53. Donc on va peut-être faire une dernière respiration musicale qui est également un hommage à toutes les victimes de crimes racistes et sécuritaires dans le Grand Saint-Barthélemy et ailleurs, avec un morceau de Hakim Amadouche.
في حياته فنان كبير بكلامه يجيب لك الليل نجوم زاوية الوداع باكية والولو ينسى دلعانس كبير شيخ بدا مداح الزين استخبار غريب نصرا في مايا اسمو نذكرو في الحير العوقه الشهير اسمو نذكرو في الحير العوقه الشهير اسمو ندخلو في الحين العوقة الشهر اسمو ندخلو في الحين العوقة الشهر We'll be right back.
de retour sur les échos du Grand Saint-Barthélemy et on est sur la dernière partie de l'émission qui correspond au communiqué du Grand Saint-Barthélemy. Donc comme nous n'avons pas cessé de le dire depuis le début de l'émission, il me semble, demain et après-demain auront lieu deux événements qui constituent en fait qu'un seul événement qui est « Il était une fois les Flamands, aujourd'hui, hier et demain ». Donc le 25 juin à partir de 18h aura lieu au ZEF un débat public avec une table ronde où seront invités notamment nos invités, une personne nous invitée, Karima, Hassan, Fatima. Hop là, puisqu'il est écrit comme ça.
Il faut préciser que c'est sur inscription.
C'est sur inscription, les inscriptions sont pleines. C'est, ouais, c'est complet. Donc peut-être essayer de faire un lien avec le Facebook avec nous. Il y aura peut-être un Facebook Live. Ouais. Vous pourrez participer à cette discussion à travers Facebook. Sur la journée du 26, de 10h du matin jusqu'à 23h45. Vous n'allez pas déborder un petit peu, il y a plus de couvre-feu. 22h45. Donc aura lieu une grande journée avec plein de festivités, mais pas seulement, des expositions, des concerts et d'autres animations. Le 29 juin, au Théâtre du Merlan, sera rejoué le spectacle concernant Madame Latifa Tyr, qui, je le rappelle, a perdu sa maman hier soir, Le Rouge éternel d'Eco Clicquot, qui est constitué justement à partir des conversations que l'artiste a entretenues avec Latifa. Donc, je ne sais pas où on est au niveau des réservations, mais vous pouvez vous renseigner en appelant le ZEF au 04 91 11 19 20. Le 2 juillet, toujours au Théâtre du Merlan, aura lieu un spectacle de danse. Le spectacle s'appelle Nas. Du 6 au 7 juillet, il y aura un spectacle de danse, Camillo Joseph Baïse, avec la compagnie Grenade. Le 9 juillet, Les 7 couleurs de Vincent Bert Desmers, un orchestre junior de Fondacle. Le 13 juillet, encore un spectacle de danse intitulé Deux têtes en cap de Balkis Moutachar. Voilà, et on en a terminé avec les communiqués de presse. Et le 22 juillet aura lieu la prochaine émission du Les Échos du Grand Saint-Barthélemy avec Le Troisième Œil et À la Fou. Nous vous laissons avec la dernière respiration musicale qui était un morceau de Troisième Œil.
Même projet, c'est sur 4 jours, d'un festival